l'accent des autres avec les médias francophones publics.
Voici les grandes lignes de l'actualité de la semaine vues par la radio-télévision suisse, par RFI, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. On va d'abord revenir sur cette condamnation pour la Suisse, faute de remplir ses propres objectifs climatiques. La Suisse viole les droits fondamentaux de ses citoyens. C'est la décision historique de la Cour européenne des droits de l'homme, Pierre Anchoffa.
Les médias internationaux ont largement commenté la première condamnation d'un État pour ce motif, alors qu'en Suisse, la droite est remontée contre ce qu'elle qualifie d'ingérence politique et de déni démocratique.
Ce coup de massue aussi au Mali, Nicolas Sûr, la junte au pouvoir suspend tous les partis politiques.
Oui, elle invoque des raisons d'ordre public. Cette décision choc intervient alors que plusieurs partis et associations réclamaient la fin de la transition et l'organisation d'une élection présidentielle.
Le projet de loi sur la fin de vie présenté cette semaine en Conseil des ministres en France, il est question d'assistance au suicide et de suicide assisté. Vous entendrez que dans ce dossier, le gouvernement revendique un juste milieu qui, en gros, ne satisfait personne. À propos du gouvernement français, retour sur la visite du Premier ministre Gabriel Attal au Canada cette semaine. Une visite pour parler en particulier langue française et commerce, Karine Mathieu.
Gabriel Attal a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau et a prononcé un discours devant les élus de l'Assemblée nationale du Québec.
Enfin, en Belgique, c'est l'augmentation du nombre de faillites qui retient l'attention cette semaine. 15% de plus que l'an dernier, rien que pour les trois premiers mois de l'année, Jacques Crémers.
Et comme si cela ne suffisait pas, deux restructurations importantes ont encore été annoncées cette semaine. L'une chez le constructeur de bus Vanhall et l'autre dans les magasins intégrés de vêtements Esprit.
Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans l'accent des autres. La Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné la Suisse cette semaine, une condamnation pour inaction climatique. L'arrêt de la Cour est qualifié d'historique. Il faut dire, Pierre-Anne, que c'est la première fois qu'un État est condamné pour son manque d'initiative dans sa lutte contre le changement climatique.
Une condamnation à la suite d'une plainte de citoyennes, en l'occurrence de 2500 aînés. La Cour de Strasbourg a reconnu que leur droit à une protection effective contre les effets néfastes du changement climatique sur leur santé et leur qualité de vie, que ce droit fondamental était violé. Un jalon donc qui fera jurisprudence pour les 46 États membres du Conseil de l'Europe.
Alors comment cette décision a-t-elle été accueillie chez vous en Suisse, Pierre-Anne ?
De manière contrastée, Olivier, enthousiasme à gauche et chez les Verts, vous l'imaginez, beaucoup plus circonspect du côté de la droite qui parle de jugement politique. C'est comme si les juges avaient condamné le rejet populaire de la loi sur le CO2. Les souverainistes de l'UDC vont même jusqu'à demander que la Suisse se retire du Conseil de l'Europe. Membre de la direction du parti, Kevin Grangier dénonce un déni de démocratie.
C'est le pouvoir d'une élite contre les peuples. Parce que la Suisse est un pays exemplaire en matière de démocratie. Les gens peuvent s'exprimer ici, peuvent lancer des initiatives, lancer des référendums. Et à la fin, c'est ce pays-là qui est condamné. C'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie. C'est une nouvelle qu'il faut, en tant que démocrate, condamner.
Reste que le représentant de la Confédération à Strasbourg l'a reconnu. Le jugement est contraignant et la Suisse en tiendra compte. Avocat des aînés pour le climat, l'écologiste Raphaël Main précise que la Suisse doit notamment clarifier son calendrier pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Sur l'exigence d'un budget carbone, pour savoir où on en est en Suisse avec les émissions de gaz à effet de serre, là, la Cour est parfaitement ferme. En d'autres termes, le choix des moyens, oui, il y aura débat, mais l'objectif devient juridiquement contraignant. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très nouveau et de très important pour la lutte contre les dérèglements climatiques.
Quant aux mesures concrètes qui en découleront, elles seront toujours tranchées par le peuple.
Au Mali, cette fois, le pouvoir militaire suspend jusqu'à nouvel ordre les partis politiques et associations à caractère politique. C'est une décision sans précédent depuis l'instauration du multipartisme en 1991, Nicolas.
Oui, un décret signé du colonel Assimi Goïta invoque la nécessité de couper court, je cite, à la cacophonie et au débat stérile avant les concertations nationales sur l'avenir du Mali que la junte assure vouloir organiser. Depuis quelques semaines, une fronde inédite contre la junte était montée dans les partis politiques et organisations de la société civile. Ils réclamaient l'organisation d'une élection présidentielle dans les meilleurs délais. Cette élection, elle figurait dans un calendrier validé l'an dernier sous pression de la CDAO, la communauté ouest-africaine, pour rétablir un pouvoir civil après les deux coups d'État. Mais entre-temps, les militaires qui ont pris le pouvoir avaient annoncé son report. Depuis, plus aucune date, plus aucune indication sur la fin de la transition. Le Mali a d'ailleurs claqué la porte de la CEDEAO.
Et voilà donc les partis suspendus et les médias interdits, Nicolas, de couvrir leurs activités.
Oui, c'est ce qu'annonce une circulaire de la Haute Autorité de la Communication. La maison de la presse à Bamako proteste et appelle les médias à ne pas se soumettre à cette injonction. Pour les commentateurs, ces nouvelles restrictions liberté publique au Mali marquent un tournant dans la radicalisation du pouvoir. Elles s'ajoutent à la suspension des médias internationaux et aux procédures judiciaires à répétition ouvertes contre les opposants et personnalités publiques qui critiquent les autorités.
On ajoutera que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme demande au Mali d'abroger immédiatement ce décret qui suspend donc tous les partis.
L'accent des autres.
Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres en France. Il doit ouvrir la possibilité, dans des conditions très strictes, d'une assistance au suicide et d'un suicide assisté. Dans le premier cas, le patient prend lui-même la substance létale et dans le second, c'est quelqu'un d'autre, un proche ou un soignant, qui l'administrerait si le patient n'est plus en mesure de le faire. Le gouvernement français revendique un juste milieu qui, en définitive, ne satisfait pleinement ni les partisans, ni les adversaires de l'euthanasie, Éric Bouvet.
Avec ce projet de loi, pour Cyril Journet, délégué départemental de l'ADMD 35, l'association pour le droit à mourir dans la dignité...
Disons qu'on prend un bon chemin.
Alors que pour l'archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo...
Je pense que cela va ouvrir la boîte de Pandore.
Pour Pierre Dornelas, l'aide à mourir est tout sauf un soin.
J'ai expliqué personnellement au président de la République ce que c'était un soin. Je ne sais pas s'il m'a bien entendu. Je ne sais pas s'il entend bien les soignants, mais on ne peut pas mettre ensemble deux réalités contradictoires, laisser venir la mort en apaisant le plus possible la souffrance, quitte à avoir la sédation continue et profonde jusqu'au décès, et donner la mort.
A l'inverse, pour Cyril Journet et la DMD, le texte va dans le bon sens, mais pas suffisamment loin.
Aujourd'hui, donc, on va ouvrir une porte à la fin de vie pour les personnes qui sont vraiment atteintes de maladies incurables. C'est très bien, la personne aura le droit de mourir, elle aura le droit de demander. Normalement, ses volontés devraient être exaucées, mais ce ne sera pas elle qui décidera à la fin, mais le médecin.
En tout cas, tous s'accordent sur le développement des soins palliatifs pour lesquels le gouvernement s'engage à fournir un effort de plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans.
Reportage Éric Bouvet pour France Bleu Armorique. À propos du gouvernement français, on va revenir un instant à présent sur la visite du Premier ministre Gabriel Attal cette semaine au Canada. Gabriel Attal qui a prononcé un discours devant les élus de l'Assemblée nationale. C'est une première en 40 ans, Karine.
La dernière fois, c'était en 1984. C'était Laurent Fabius qui était le plus jeune premier ministre de l'histoire de la République. Et 40 ans plus tard, c'est le nouveau plus jeune premier ministre français qui s'exprimait à Québec. Gabriel Attal n'a pas manqué de le souligner. Il a d'ailleurs fait une grande place à la jeunesse dans son discours, à la protection de la langue française et à la défense de la laïcité, ce qui lui a valu la plus vive acclamation.
Face à ceux qui font mine de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité, qui voudraient la détourner, faire croire qu'elle est une forme d'arme anti-religion, faire croire qu'elle est une forme de négation des religions, faire croire qu'elle est une forme de discrimination. Nous répondons que la laïcité est la condition de la liberté, est la condition de l'égalité, est la condition de la fraternité.
Gabriel Attal, donc à l'instant, Karine, lors de cette visite, la question de la langue aura été centrale.
Les premiers ministres français et québécois ont signé une déclaration sur la langue française qui met en avant l'importance de la découvrabilité du contenu francophone sur les plateformes américaines, un aspect essentiel pour la sauvegarde de la langue française, selon Gabriel Attal.
Nous le voyons, les concurrences sont là, accélérées par le numérique, les contenus en ligne, qui voudraient nous imposer une forme d'uniformité, y compris linguistique. Nous devons nous battre. Et le message que je suis venu vous passer ici, c'est que nous nous battrons. Nous nous battrons pour que chaque enfant, chaque jeune puisse avoir accès à des livres, des articles, des jeux vidéo, des films, des séries en français.
Voilà donc le Premier ministre français à nouveau. Et puis Karine, on ne peut passer sous silence les liens économiques entre le Canada et la France.
Et le premier ministre français s'est voulu rassurant quant au futur de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, une entente dont le sort est incertain depuis que le Sénat français s'y est opposé. Pour Gabriel Attal, c'est un accord gagnant-gagnant entre la France et le Canada. Il a d'ailleurs ajouté que depuis qu'il a été signé il y a 6 ans, nos échanges entre les deux pays ont progressé de plus du tiers et de façon équilibrée. Enfin, le Canada attend maintenant la visite du président Emmanuel Macron qui doit avoir lieu cet été, mais un arrêt au Québec ne semble pas à son ordre du jour.
On va se quitter en Belgique avec une mauvaise semaine pour l'emploi. Jacques, on retiendra en particulier l'annonce de 2 restructurations importantes chez le constructeur de bus Vanhall et pour la marque de prêt-à-porter Esprit.
Ce sont en effet 15 magasins en gestion propre qui sont visés par la faillite. Au total, 148 travailleurs perdent leur emploi. La société avait déjà annoncé sa faillite en Suisse le mois dernier. Elle avance diverses raisons, parmi lesquelles un climat de consommation morose en Europe, le coût de l'énergie et des loyers trop élevés pour des magasins surdimensionnés. Les points de vente Esprit exploités par des indépendants, eux, poursuivent leur activité.
Oui, et ça n'est pas le seul coup dur pour l'emploi. Jacques, le secteur industriel est aussi concerné.
Oui, après la suppression de près de 400 postes d'intérimaires chez Audi Bruxelles, la faillite du constructeur de bus Vanhall a été officialisée en début de semaine. L'information a été annoncée à la suite d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Le constructeur situé près d'Anvers se sépare d'un grand nombre d'entreprises, dont celui de cet ouvrier de la région de Liège.
C'était très court, 5 minutes, ça a duré 5 minutes, pour tout ça, pour ça. Voilà, ils ont déclaré la faillite. On va vous aider à vous recaser, mais je ne sais pas mon âge où je vais me recaser. Je travaillais au véhicule industriel.
Vous êtes déçu?
Oui, déçu, en colère, et je suis plein d'émotions.
Jeudi, les curateurs ont validé un duo de repreneurs pour une relance partielle des activités, mais ce sont bien 1550 travailleurs sur un total de 2500 qui vont devoir se trouver un nouveau job. Depuis le début de l'année, le nombre de faillites en Belgique a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Le patron de la Fédération des entreprises de Belgique pointe principalement les coûts de l'énergie trop élevés et les coûts salariaux, 12% de plus que chez nos voisins.
Jacques Crémer, c'est la RTBF pour refermer l'accent des autres. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous cette semaine encore. On se retrouve bien sûr dans 8 jours, si vous le souhaitez. Excellente fin de semaine avec les médias francophones publics.